France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, la main de Vata ou la main du diable. Au printemps 90, l'Olympique de Marseille a une chance unique d'accéder à la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, ce qui serait une première victoire française dans cette compétition, 14 ans après l'échec cruel de Saint-Étienne face au Bayern de Munich. Son adversaire en demi-finale, le Benfica, est à sa portée. Depuis que Bernard Tapie a repris le club, 4 ans plus tôt, il a recruté les meilleurs joueurs français et fait venir des stars internationales. Tigana, Papin, Waddle, Moser, que de grands noms. Le peuple de Marseille revit. À l'aller, l'équipe entraînée par Gérard Gilly l'emporte 2-1. Au retour, elle résiste à la furia des Portugais jusqu'à cette terrible 83e minute. Vata donne la victoire à son équipe en marquant de la main. L'arbitre n'a rien vu. 7 minutes plus tard, il siffle la fin du match. Benfica se qualifie pour la finale. Scandale. L'OM crie au complot. Vata reçoit des menaces de mort. L'arbitre est accusé de tous les maux, même le Premier ministre Michel Rocard s'offusque. Notre invité aujourd'hui, l'ancien footballeur international Jean Castaneda, 9 sélections compteur chez les Bleus. Il était dans les buts face à Benfica, il a tout vu, mais il n'a rien pu faire. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Rémi Carayol, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation David Leprince.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles sur France Inter.
Avril 1990, Lisbonne. Le stade de la Luz est plein à craquer. À cette époque, la Coupe d'Europe des clubs champions, qui ne s'appelle pas encore la Ligue des champions, se joue le mercredi, et uniquement le mercredi. Les matchs sont assez rares, 4 tours suffisent pour atteindre la finale, 8 matchs donc, un aller, un retour. Et il se trouve que pour la première fois de sa longue histoire, Marseille a une chance d'y accéder. Son adversaire, le Benfica, lui, l'a gagné 2 fois, cette coupe aux grandes oreilles. Mais c'était il y a 30 ans, en 1961 et 1962. Bref, retour en 90, c'est la demi-finale, match retour, match décisif. Il est bientôt minuit en France, 23h au Portugal. L'OM est mené 1-0, il faut absolument égaliser. Devant leur télé, des centaines de milliers de Français trépignent, malgré leur tardive. Nous sommes à la 89e minute. La fin du temps réglementaire approche et les arrêts de jeu, à cette époque, ne sont pas décomptés. L'occasion de la dernière chance est pour Jean-Pierre Papin. JPP, la star du club, un sérieux buteur, immense talent, tout en efficacité et percussion. Il s'apprête à tirer un coup franc à 20 mètres des buts, légèrement excentré sur la droite. La suite, c'est Thierry Roland et Jean-Michel Larquet qui la commentent, en direct sur TF1.
Papin, non. À côté du but de Silvinho. Oui. Et les Portugais du Benfica qui vont se qualifier pour leur 7e finale de la Coupe d'Europe des clubs champions avec l'aide de l'arbitre ou la complicité de M. Van Langenaude. Dommage, vraiment dommage, car les Marseillais avaient fait un match vraiment héroïque. Et il méritait autant que les Portugais de se qualifier. Mais voilà, M. Van Langenhove n'a pas vu ou n'a pas voulu voir la main de Vata.
Ah, il en a dit des bêtises parfois, Thierry Roland, dans sa carrière. Mais cette voix, franchement, quelle Madeleine de Proust. La main de Vata, donc, la main du diable. Celle qui surgit nulle part a poussé le ballon dans le but de Jean Castaneda, le gardien marseillais, dans un immense brouhaha et sans que l'arbitre ne bronche. Pendant des années, et encore aujourd'hui, cette main sera synonyme de cauchemar pour les supporters de l'OM. Une marque indélébile, un échec impossible à digérer. D'autant que l'histoire du foot repasse les plats. Souvenez-vous de la main de Maradona, la main de Dieu, fatale aux Anglais en 86, en quart de finale de la Coupe du Monde. Il y aura ensuite la main de Thierry Henry en 2009, lors d'un match oppressant de qualification pour le Mondial face à de valeureux Irlandais. Mais pour le peuple de Marseille, seul compte la Manvata. Alors, pour comprendre pourquoi cette plaie toujours à vif, et qui peut paraître excessive après tout, ça n'est que de foot, il faut remonter quelques années en arrière. 4 ans et 2 mois, précisément. En février 86, Bernard Tapie, un homme d'affaires à la réputation sulfureuse, rachète le club phocéen. Sur la Canebière, où le lustre d'antan n'est plus qu'un lointain souvenir, où sont les Beretta, Albert Raymond et consorts, eh bien l'espoir renaît. Comme en témoigne ce reportage de France Inter.
Notre canne-canne-canne-canne-bière, notre canne-canne-canne-canne-bière.
Elle a besoin d'un homme comme ça, ouais, mais c'est certain, hein, y a que lui qui peut redresser la situation. Même qu'il prend tous les pouvoirs, il a raison.
Je pense que c'est la meilleure solution, parce qu'on ne peut pas supporter qu'une équipe qui ait dominé le football, comme elle a fait, que maintenant elle se traîne en milieu de tableau. Alors je pense qu'avec Tapie Hidalgo, avec 3-4 bons joueurs, je pense qu'on va revenir comme on était avant, c'est-à-dire au premier, deuxième. Quoi.
Moi, je suis pour une belle équipe, une bonne équipe, comme du temps de Leclerc et compagnie. Voilà.
Et c'est bon que Tapie vienne ici reprendre l'OM?
C'est bon, s'il achète de bons joueurs, et on ira voir au moins du football. Moi, depuis Leclerc, je ne suis plus retourné au stade.
Marseille, ça a toujours été le pays de la magouille. Il faut le laisser faire.
Marcel Leclerc. Quand ce chef d'entreprise marseillais reprend le club en 1965, l'équipe végète en deuxième division. Elle semble loin à l'époque où l'OM jouait les premiers rôles. C'était dans les années 20, 30, 40. 2 titres de champion de France, 6 Coupes de France. Mais depuis, plus rien. Au fil des ans, le stade Vélodrome s'est vidé de ses supporters. Un jour, ils ne sont même pas 500 pour assister au match qui oppose leur équipe à Forbach. Alors Leclerc veut changer ça. Il a des ambitions. Et de toute évidence, il sait y faire. La preuve. Dès l'année suivante, l'OM remonte en première division. Et 3 ans plus tard, Marseille est à nouveau à la fête. Le club gagne la Coupe de France en 69, puis le titre de champion en 71 et 72. Cette année-là, 72, il réalise même le doublé, championnat et Coupe de France, s'il vous plaît. L'OM joue bien et attire les stars, Scoblar, Magnusson, Paolo César, Marius Trésor. Mais l'embellie ne dure qu'un temps. Les difficultés financières s'accumulent, les mauvais choix aussi. Et en 1980, le club est à nouveau relégué en deuxième division. Le purgatoire, comme on dit. Heureusement pour la Canebière, le panier et même le roucas blanc, l'OM rejoint l'élite 4 ans plus tard, grâce à ses minots formés au club. Mais l'équipe cantonnée à la deuxième moitié du tableau ronronne. Elle ne fait plus rêver personne quand Tapie débarque, avec à ses côtés, un certain Michel Hidalgo.
La situation de Marseille, plus la spécificité de Marseille, m'amenait à penser que c'est là qu'il fallait aller. Fidèle à ma technique, comme tous les gens qui ne savent pas faire grand-chose, ce qui est mon cas, j'ai conditionné mon arrivée qu'à la venue de Michel Hidalgo, parce que lui sait bien faire. Alors Michel a réfléchi un bon moment, et puis quand il a eu réfléchi, il m'a dit « Bon, ben moi ça m'intéresse, si tu vas à Marseille, je vais avec toi. »
Signé Bernard Tapie. Hidalgo en 86 est un grand nom du football français. Il a mené les Bleus au sommet en tant que sélectionneur. C'est avec lui qu'ils obtiennent leur premier titre, champion d'Europe en 1984. C'est avec lui également qu'ils font vibrer la France entière lors du Mondial 82 en Espagne. Cette demi-finale étouffante. L'attentat de Schumacher, le gardien allemand sur Batiston. Le but qu'on croit décisif de Giresse dans les prolongations. Et cette terrible séance de tirs au but en faveur de l'Allemagne de l'Ouest. Hidalgo est l'une des figures majeures de ce drame digne du théâtre antique. Mais ce n'est pas pour entraîner l'équipe qu'il débarque à Marseille. Le banc, ce n'est plus pour lui, trop stressant. Non, Tapie lui demande de reconstruire le club. Bien, Hidalgo est nommé manager. Sauf qu'en réalité, personne n'est dupe. C'est Tapie le patron et personne d'autre.
Qu'est-ce qui fait marcher Tapie ? 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 Qu'est-ce qui fait marcher Tapie ?
Requin, retour sans remords, la spécialité de Tapie, c'est de racheter des entreprises en faillite. Manufrance, Look, La Vie Claire, pour les laisser ensuite à leur sort, liquidation. Et depuis quelques années, il s'est lancé dans le sport. La voile d'abord. En 82, il n'a alors que 39 ans, il rachète le Phocéa, un voilier de compétition. Puis Monsieur Touche-à-Tout se lance dans le vélo. En 84, il crée sa propre équipe, l'Avi Clair, et relance un Bernardino déclinant. C'est au Crazy Horse qu'il présente son équipe aux côtés de son entraîneur, Paul Koechlin. Et il a déjà une idée précise de ce qu'il faut faire.
Je lui dis, écoute, Paul, maintenant, j'aimerais vraiment qu'on soit la meilleure équipe du monde. Il m'a dit, écoute, si tu veux la meilleure équipe du monde, ça va te coûter pas mal d'argent. Et je crois que finalement, c'est pas très important de savoir combien ça va coûter. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que ça va rapporter. On peut arriver à terme, le terme étant pas trop loin, d'avoir à la fois une équipe qui coûte cher et d'avoir à la fois le plaisir d'être rentable.
Voilà, simple, basique. L'année suivante, Hino gagne le Tour d'Italie et le Tour de France. Ces victoires confortent Tapie dans sa stratégie, évidemment. Elle lui donne un crédit à toute épreuve. Alors, quand il jette son dévolu sur l'OM, l'indétrônable maire de la ville, Gaston Defer, le soutient ardemment.
C'est l'intérêt de tous. L'intérêt de l'OM, de redevenir un grand club qui gagne la Coupe, le championnat et même les grands matchs européens. C'est l'intérêt de l'image de la ville de Marseille.
En avril 86, le rachat est acté. Quelques semaines plus tard, Defer quitte ce monde. Mais pas de quoi enrayer la machine. Durant l'été, Tapie met en œuvre sa politique des grands noms. Le succès doit être rapide. Et pour cela, il faut recruter des as, comme Hino, côté vélo. Pour le foot, que Tapie semble bien connaître. Il fait venir Karl-Heinz Förster, un Allemand, vous l'aurez compris, l'un des meilleurs défenseurs du monde. Il convainc la Giresse de quitter Bordeaux. Belle prise de guerre, là encore. Enfin, il recrute un jeune attaquant français exilé en Belgique, un certain Jean-Pierre Papin. Ce transfert porte la marque de Tapie. JPP doit signer à Monaco. L'homme d'affaires lui propose un salaire deux fois supérieur et il concède une indemnité au club monégasque.
Colette Papin, formidable ! Formidable but de Jean-Pierre Papin !
Celui-là, il est magistral ! Quel but dans la grande collection de Jean-Pierre Papin !
Fabuleux !
Extraordinaire !
Un but 100% marseillais par reprise de volée de Papin ! Extraordinaire but de JPP !
Dès l'année suivante, l'OM redevient un cador du championnat français. Certes, pas un foudre de guerre ce championnat, comparé à ses voisins européens, mais bon. Deuxième à 4 points du Bordeaux de Claude Béz, l'ennemi juré de Tapie, saison réussie. En 88, c'est plus compliqué, malgré le renfort de l'attaquant allemand Klaus Allofs. L'OM finit sixième, loin derrière Monaco. Tapie décide alors de mettre la main sur les jeunes espoirs français. Il recrute Eric Cantona et Franck Sauzet. En plus des gardiens, Gaëtan Barre. Mais surtout, il change d'entraîneur. Et pas de grand nom cette fois. À la surprise générale, il nomme Gérard Gilly, un enfant du club, un homme discret. Et ça marche. En mai 89, enfin, l'OM gagne le championnat devant le PSG. Mieux, à l'issue d'un match mémorable face à Monaco, score final 4-3, et grâce à un triplé de Papin, le club gagne la Coupe de France et réalise le doublé. Mais Tapie veut plus. Comme Defer, il rêve de voir Marseille au sommet de l'Europe. Et pour cela, il lui faut les meilleurs. Or, le meilleur à l'époque, c'est Diego Maradona, El Pibe de Oro, le gamin en or. En juin 89, la rumeur enfle. Hidalgo s'est entretenu avec l'Argentin. Oui, sa venue est imminente. Mais à Naples, où il est adulé, personne ne veut y croire. TF1 s'en fait l'écho.
Dans le journal, ils disent qu'il veut quitter Naples pour des raisons personnelles. Les supporters marseillais sont en fête. Ils ne racontent que des histoires. Quelles raisons personnelles ? Maradona dit toujours qu'il veut s'en aller, mais il ne s'en ira jamais. Ce n'est qu'un bluff de journalistes pour vendre leurs papiers. Lui, c'est moi qui habillais Maradona et il ne m'a jamais payé. Maradona, avant, avait des pantalons rapiécés. C'est ici, à Naples, que Maradona est devenu un homme. On lui a appris à s'habiller, à manger les spaghettis. Ce n'est qu'une famille de tziganes, de pauvres gens.
Les Napolitains ont raison. Tapie a cru, mais Maradona reste fidèle à l'Italie. Qu'à cela ne tienne, à l'été 89, l'OM réalise tout de même un recrutement XXL. Et il y en a pour tout le monde. Des joueurs français confirmés, à l'image de Manuel Amoros, chippé à Monaco. de Jean Castaneda, venu de Saint-Étienne, ou encore de Jean Tigana, le quatrième membre du Carré Magique qui a roulé sur l'Europe en 84 avec Platini, Giresse et Fernandez. Il y a des espoirs aussi, dont un certain Didier Deschamps, venu de Nantes. Et bien sûr, des stars internationales, le défenseur brésilien Carlos Moser, un dur à cuire celui-là, un rock qui fait peur à tout le monde. Il y a le maître à jouer de l'Uruguay, Enzo Francescoli, un artiste. Et surtout, le fantasque dribbleur anglais Chris Waddle, venu pour un montant record en provenance de Londres. Son arrivée en France est un événement.
Football, ce ne sera pas Maradona pour l'OM, vous le savez, mais Chris Waddle, le milieu de terrain britannique qui est arrivé aujourd'hui à Marseille. Il devrait y rester 4 ans. C'est le plus gros transfert jamais réalisé en France, 45 millions de francs. Cantona enfoncé, c'était à peine la moitié. Quant à Panzani, je ne vous en parle pas.
Passeport pour une star, c'est lui Chris Waddle, l'homme qui vaut 4 milliards et demi de centimes, la somme record. Payé par l'Olympique de Marseille au club de Tottenham pour obtenir le transfert de cet attaquant de 29 ans, 44 fois capé en équipe nationale d'Angleterre, et ravi de l'accueil qui lui a été réservé à l'aéroport de Marseille-Provence.
J'ai déjà eu le même la semaine dernière en Angleterre pour mon départ. J'avais jamais vécu ça auparavant, c'est très excitant.
Avec une telle équipe, l'OM fait figure grand favori en France et peut même rêver à une belle épopée en Coupe d'Europe. D'ailleurs, le début de saison est canon. Victoire 4-1 à Lyon, puis 1-0 contre Nantes. Mais la machine s'enraye. Des matchs nuls décevants, quelques défaites surprenantes, dont une rouste à Bordeaux, 3-0. C'est qu'en face, les Girondins aussi sont bien armés, avec Batiston, Ferreri, Zarazou, encore Bell et Alofs, deux anciens Marseillais. Malgré la forme de Papin, qui plante but sur but et enchaîne les papinades, l'équipe s'est fait chahuter en championnat. La bataille pour le titre est féroce entre l'OM, Bordeaux et Monaco. En Coupe d'Europe, en revanche, tout roule. Marseille se débarrasse de Brøndby, le champion du Danemark, puis de l'AOK Athènes, et enfin, en quart de finale, de Sofia, le club bulgare. Pas vraiment des grandes équipes, mais peu importe. L'important, c'est d'avancer dans la compétition. Le mois d'avril s'annonce bouillant. C'est la dernière ligne droite. Et l'OM peut encore réaliser un incroyable triplé. Championnat, Coupe de France, Coupe d'Europe. D'autant que le tirage au sort lui était favorable. L'OM doit affronter le Benfica en demi-finale. Une belle équipe, certes, mais ce n'est pas l'ogre de la compétition. Marseille évite le Bayern de Munich. Et surtout, le grand favori, le Milan AC du trio néerlandais Rijkaard, Gullit et Van Basten. Le club italien suit la même trajectoire que l'OM. Il revit depuis qu'il a été repris par un sulfureux homme d'affaires, promis lui aussi à une grande carrière politique, Silvio Berlusconi. C'était en 1986, au moment où Tapie rachetait l'OM.
The magic number three. Somewhere in this hip hop soul community was born three, they stubbed me, and that's the magic number.
What does it all mean?
Difficult preaching is posthumous pleasure. Pleasure in preaching starts in the heart. Something that stimulates the music in a measure. Measure in the music, racing three parts. Casually see, but don't do like a soul. Cause seeing and doing are actions for monkeys. Doing hip hop, hustle, no rock and roll. Unless your name's Brewster, cause Brewster's a punk. Parents let go, cause it's magic in the air. Criticizing rap shows you're out of order. Stop looking, listen to the phrase in Fred Astaire's. And don't get offended while Mace Do-Si-Do's your daughter. A tri-camera roll system is now set. Fly around the store under Daisy Productions. It stands for the inner sound. Y'all in your Quebec, that the action's not a trick, but showing up a function. Everybody wants to be a DJ, everybody wants to be an MC, but being speakers are the best, and you don't have to guess. De La Soul Posse consists of three, and that's the magic number. This here piece of the pie is not dessert, but the cost that we dine. And three out of every darn time, the effect is, when a daisy grows in your mind. Showing true position, this here piece is kissing the part of the pie that's missing, where that negative number fills up your casualty. Maybe you can subtract it, you can call it your lucky partner, maybe you can call it your adjective. But odd as it may be, without my one and two, where would there be my three mates, possibly, and that's the magic number.
What does it all mean? Focus is formed by flaunt of the soul. Souls before style gain praises by pounds. Comment on speakers who honor the scroll. Scroll written daily creates a new sound. Listeners listen cause this year is wisdom. Wisdom of a speaker, a dub and a plug. Set aside a legal substance to feed them for now. Get them high off this dialect drug. Time is a factor so it's time to count. Count not the negative actions of one. Speakers of soul say it's time to shout. Three forms the soul to a positive sum. Dance to this fix and flex every muscle. Space can be filled if you ride like my lumber. Advance to the tune but don't do the hustle. Shake, rattle, roll to my magic number.
Now you may try to subtract it, but it just won't go away. Three times one.
What is it?
One, two, three. That's a magic number.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la main de Vata, la main du diable.
Affaires Sensibles. Fabrice Drouel.
Avril 1990, le mois de tous les dangers. Un calendrier dantesque attend les joueurs de l'OM. Le Benfica en Coupe d'Europe, bien sûr. Match aller le 4 à Marseille, match retour le 18 à Lisbonne. Entre les deux, un huitième de finale de la Coupe de France contre Nîmes. Et surtout, une rencontre décisive contre Bordeaux en championnat. Il faut tout gagner. Le 4 avril, la ville est en ébullition. Et c'est toute la France qui se met à rêver d'une nouvelle finale européenne, 14 ans après la défaite de Saint-Étienne face au Bayern.
Sainte Canebière, priez pour eux. Dans un peu moins d'une heure, les footballeurs de l'OM accueillent et affrontent les Portugais de Benfica en match aller des demi-finales de Coupe d'Europe des clubs champions. Du Vieux-Port au Prado, tous les supporters marseillais seront ce soir, le grand soir, derrière la bande à Papin.
J'attends d'avoir des places, on vient d'Avignon.
Vous venez d'Avignon ?
D'Avignon, oui. Non, on n'a pas de place, parce qu'on ne pouvait pas revenir avant. Hein.
Vous savez que ça joue à guichet fermé ce soir ?
Je sais, oui. Mais on va essayer d'en trouver.
Vous êtes prêt à mettre combien ?
Virage, pas 200 francs. Il n'y aura pas plus haut. Même si on n'a pas de place, on ira le voir dans un café. Hein. On le verra quand même. Hein.
Dans un vélodrome plein à craquer, les Marseillais l'emportent. Après une première période, disons, équilibrée, l'OM est en tête, 2-1, grâce à un but de Papin juste avant la pause. Puis les Blancs et Bleus dominent la deuxième mi-temps des pieds de la tête. Les occasions se multiplient. Les Rouges de Benfica sont acculés. Mais c'est le temps des vendanges. La défense portugaise résiste. Et l'OM reste bloqué à 2 buts. C'est donc une victoire au goût amer. Parce que les Phocéens auraient dû en marquer 2 ou 3 plus. Et l'affaire aurait été pliée. Et surtout, il y a ce but inscrit par Lima, l'attaquant brésilien du Benfica, dès la 10e minute. Or, à l'époque, les buts marqués à l'extérieur comptent double. Tout le monde se doute que le retour sera compliqué. Rendez-vous le 8 avril. En attendant, les joueurs font le job. Ils éliminent Nîmes en Coupe de France et surtout, 4 jours avant le match de Lisbonne, ils battent Bordeaux 2-0, 2 buts de Waddle. Une victoire décisive dans la course au titre. L'OM, encore une fois, sera champion. Mais Tapi est inquiet, et il ne s'en cache pas, au micro de Jacques Vendroux sur France Inter.
Est-ce que c'est un match qui vous fait peur ?
Ah ouais ?
Ouais.
Fait à la fois peur parce que l'enjeu est important, et d'autre part parce que l'air de rien, ça fait quand même maintenant pratiquement 5 semaines qu'on joue tous les 3 jours. Et je pense que l'énergie dépensée samedi va se faire sentir plus qu'on le croit demain. Moi, je les ai vus, je les connais bien, je sais qu'ils commencent à être un peu crevés.
Quelques heures avant le match, Jacques Vendroux tend le micro à Jean Castaneda, le gardien remplaçant de l'OM, qui est titulaire ce soir, en raison de la blessure de Gaëtan Var. L'ancien Stéphanois était de l'aventure en 76. Il était sur le banc lors de la finale maudite des Verts, face au Bayern. Il était sur le banc de l'équipe de France aussi, lors de la Coupe du Monde en 82. Autant dire qu'il a de l'expérience à revendre. Mais il revient de blessure. Personne ne le sait encore. Il sera le héros malheureux de cette demi-finale.
C'est un match peut-être le plus important de votre carrière pour vous.
Oui, certainement. Je crois que pour tout joueur, d'ailleurs, une demi-finale de la Coupe d'Europe, c'est sûrement le match le plus important de sa carrière. Et je ne fais pas exception à la règle.
En début de soirée, les Marseillais découvrent un stade de Benfica en fusion. Eusebio Lagloire, local, l'un des plus grands footballeurs des années 60, fait trois fois le tour du stade pour haranguer la foule. Ambiance explosive, hostile même. Dans les tribunes, des supporters marseillais sont caillassés. Ils reçoivent des boulons sur la tête. Au micro, Jean-Michel Larquet et Thierry Roland doivent hausser le ton pour se faire entendre. Sur la pelouse, il faut crier, carrément. Il faut avoir un grand cœur et la tête froide pour jouer dans une telle atmosphère, dira plus tard l'arrière-gauche Eric Dimeco, pourtant habitué au chaudron. Voilà, c'est parti. L'arbitre belge, Marcel van Langenhove, donne le coup d'envoi. Les deux équipes sont prudentes. Les occasions sont rares, on ne prend aucun risque. 0-0 à la mi-temps, merci messieurs, pour le spectacle on repassera. À la 53e minute, en deuxième mi-temps donc, l'entraîneur de Benfica, le Suédois Sven-Göran Eriksson, remplace le buteur du match aller, le Brésilien Lima, par l'Angolais Vata. Un bon attaquant, lui aussi. Il a fini meilleur buteur du championnat du Portugal l'année précédente. Bien, le temps passe, on continue de s'ennuyer ferme. On joue la 82e minute. Veloso donne à Pacheco qui déborde à Moros. Tigana vient à la rescousse. Corner pour Benfica.
Et Jean Tigana est venu prendre sa place. Et corner, du Benfica.
Ah là là, qu'est-ce que c'est dur.
Alors que l'on joue la 38e minute de ce match.
Et que cette fois-ci, c'est Valdo qui va aller le tirer.
Un véritable corner. Tous les joueurs du Benfica sont montés.
Castaneda gêné par Hernani.
Et but.
But.
But réussi par Vata. Ce qu'il avait cherché.
Oui, mais. Un énorme mais. Vata a marqué de la main. Ou de l'avant-bras, on ne sait pas vraiment. Mais au football, ça revient au même. C'est interdit. Immédiatement, Dimeco lève le bras. Il est au marquage de Vata. Il a tout vu. Castaneda aussi. Il se rue vers l'arbitre. Tout comme Tigana, qui l'invective en lui montrant la main. Mais les autres joueurs ne savent pas ce qui s'est passé. Gérard Gilly non plus, depuis le banc. Le coach a juste été surpris par la courbe du ballon. Dans la tribune, Thierry Roland et Jean-Michel Larquet ont des doutes. Il leur faut plusieurs ralentis pour comprendre. Mais surtout, l'arbitre n'a rien vu. Il était masqué par une forêt de joueurs. Et la VAR, à l'époque, l'arbitrage vidéo, relève encore de l'utopie. Le but est donc validé. Et 7 minutes plus tard, l'arbitre siffle la fin du match. Marseille voit son rêve s'envoler. Merci, monsieur van Langenhove. Merci beaucoup, ironise Larquet, avant de l'accuser d'avoir craqué sous la pression et d'asséner, je cite Larquet, que l'erreur est trop grossière pour qu'on puisse la pardonner. Dans sa colère, il voit juste. Ce but, dit-il, on va en parler longtemps. La preuve. Dans la vestiaire, les joueurs s'en sonnaient. Et dans les couloirs, tapissolage.
J'ai dit aux joueurs, c'est nous qui avons perdu ce soir. Parce qu'on n'a pas su créer le même climat à Marseille, avec des arbitres qu'on reçoit gentiment, avec les équipes adverses. Je vous en prie, vous voulez une tasse de thé? Non, mais j'en ferai rien. Et puis, je sais que ça se passe bien, etc. Et puis là, où il y a une guerre des nerfs épouvantable, on n'a pas pu les voir. Pas le droit de les voir. C'était tout bouclé, bon. Donc, on a perdu ce match parce que Benfica, effectivement, est un beaucoup plus grand club et plus ancien club que nous. Et vous savez, il ne faut pas me la faire trop longtemps. Sur le plan du recrutement et de la manière de manager un club, je pense que ça, j'avais su faire. Manager l'environnement d'une Coupe d'Europe, j'avais pas compris. Je vous promets que j'ai compris. Ça se reproduira plus jamais.
Non, plus jamais. Tapie apprend vite. Et en affaires, comme en sport, il s'affranchit aisément des règles. Les années suivantes, l'OM sait accueillir, comme on dit, autant les arbitres que les adversaires. Et 3 ans plus tard, alors que le club remporte enfin la Coupe d'Europe, en battant le Grand Milan à ses 1-0, but de Boli, Tapie est pris la main dans le sac. C'est l'affaire OMVA. Des joueurs de Valenciennes ont été corrompus pour laisser filer la partie, qu'il n'y ait surtout pas de blessés dans les rangs marseillais avant la finale européenne. Et c'est la fin piteuse de l'histoire d'amour entre Marseille et Tapie. En attendant, la main de Vata devient une affaire d'État. À la télé, on montre et on remontre les ralentis. On en parle même sur France Culture, la radio, qui ne s'intéresse pas forcément au sport d'habitude, consacre une émission entière à ce match. Quant au premier ministre de l'époque, Michel Rocard, un fan de foot, il y va de sa lettre officielle envoyée à Tapie, dans laquelle il s'interroge sur, je le cite, « les conditions de cette élimination » et où il émet une idée qui paraît alors novatrice, « pourquoi ne pas faire appel à la vidéo ?» Une prise de position qui charrie son lot de polémiques sur la scène politique et de jeux de mots dans le journal de France Inter.
L'échec de Marseille en demi-finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, ce n'est plus du football, c'est presque du rugby. Le fameux but, marqué de la main par un joueur portugais mercredi soir, provoque un début de mêlée politique. Michel Rocard a écrit à Bernard Tapie, Philippe Séguin, député maire RPR d'Épinal, critique la démarche du Premier ministre. Quand on disait qu'on parlerait longtemps de cette main coupable, Michel Gourdin, on ne croyait pas si bien dire.
Dans une lettre adressée à Bernard Tapie, Michel Rocard s'interroge sur les conditions de l'élimination de Marseille. Le Premier ministre s'est que pour des compétitions aussi importantes, on ne fasse pas appel à la vidéo. En langage sportif, le Premier ministre reconnaît et condamne l'erreur d'arbitrage du Belge M. Van Langenhove. Une prise de position inacceptable pour Philippe Séguin qui sort le carton rouge en proposant même plusieurs années de suspension pour le chef du gouvernement. Philippe Séguin porte un tacle sévère. Il déclare n'avoir jamais entendu quelque chose d'aussi ridicule et démagogique alors qu'il est si difficile de trouver des arbitres.
Persuadé d'avoir été volé, l'OM demande l'ouverture d'une enquête auprès de l'UEFA, l'instance dirigeante du football européen. Tapie évoque des versements suspects en faveur de l'arbitre. Alors, les rumeurs se multiplient. Il aurait un compte caché, il aurait une maîtresse portugaise. Mais l'enquête blanchit le pauvre Van Langenhove. Ce Belge, épicier de profession, est l'un des meilleurs arbitres de son époque. Voilà 14 ans qu'il dirige des matchs internationaux. Et désormais, il doit vivre avec cette infamie. L'année d'après d'ailleurs, il met un terme à sa carrière. Mais il ne regrette rien, non. Il persiste à dire que cette main, il ne l'a pas vue et donc il ne pouvait pas la siffler. 30 ans plus tard, voici ce qu'il dit sur RMC.
Selon vous, est-ce une erreur de votre part ?
Ce n'est pas une erreur, c'est une malchance. Une erreur, c'est vraiment se tromper sur une face. Mais si je ne sais pas me tromper parce que je ne l'ai pas vue. Vous vous trompez quand vous avez vu une phase et vous sifflez autrement. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais si je ne l'ai pas vu, donc je n'ai pas fait de faute. Et ça, je reste jusqu'à mes derniers jours. Je n'ai pas fait de faute, je ne l'ai pas vu. Alors, je n'ai pas fait d'erreur. Tu ne l'as pas vu et en plus, on te prend pour un corrompu. C'est désagréable comme tout, hein.
Jeu de main, jeu de vilain. Vata reçoit quelques menaces de mort. Oh, rien de bien sérieux, mais ça l'embête, tout ce bruit, car il refuse d'avouer. Non, répète-t-il, il n'a pas marqué avec la main. Avec la poitrine, oui. Avec l'épaule, peut-être, mais pas avec la main. Aujourd'hui encore, il nie. En avril 2024, le quotidien La Provence le retrouve loin de l'Europe. Pas en Angola, non, ni en Indonésie, où il a fini sa carrière dans l'anonymat, 10 ans après son fameux but, mais en Australie. Le ballon a pris de la vitesse, dit-il au journaliste Fabrice Lamperti. Si c'était avec la main, le ballon n'aurait pas pris autant de vitesse. Bon, il n'y a plus guère que lui pour nier l'évidence. Les images sont floues, mais elles parlent. Aujourd'hui, la main de Vata est entrée dans le panthéon des mains mythiques du football. Même les dirigeants du Benfica en conviennent. D'ailleurs, une semaine à peine après le match, ils organisent une réception en l'honneur du buteur angolais qui les a qualifiés pour la finale. Sur le carton d'invitation, on peut y lire le menu. Pieds de porc et mains de veau à la marseillaise. Élégant. Quelques jours plus tard, à Vienne en Autriche, le Milan AC l'emporte 1-0 en finale grâce à un but de Richard et malgré l'entrée en jeu de Vata à la fin du match. Sur la Canebière, on se dit qu'il y a une justice dans ce monde. Et aujourd'hui, on se dit encore, et à juste titre, que pour l'éternité, l'OM restera le premier club français à avoir remporté la Ligue des Champions.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, la main de Vata, notre invité, un acteur majeur de cet épisode, le gardien de but, l'ancien gardien de but, Jean Castaneda. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous comptez 9 sélections en équipe de France, vous avez joué plus de 360 matchs en première division, vous avez été formé à Saint-Etienne, vous avez fini votre carrière à l'OM et vous étiez dans les buts face à Benfica. Donc, aux premières loges, est-ce que cette main de Vata vous hante encore aujourd'hui, plus de 35 ans après les faits ?
hanter, c'est un bien grand mot, disons que c'est une blessure qui ne s'est pas refermée complètement, malheureusement. Mmh. Je pense qu'à l'époque, on avait la possibilité d'aller titiller le Grand Milan. Malheureusement, on est tombé sur un Vata des grands jours, on va dire.
Alors, vous êtes aux premières loges. Dès que Vata marque le but, vous foncez vers l'arbitre. Que lui dites-vous ?
Ben, en fait, on ne sait pas trop ce qu'on lui a dit parce qu'on a reçu un coup de massue. Sachant que dès qu'un arbitre avait pris sa décision et sifflé une décision, c'était impossible qu'il revienne. Mmh. Il n'y avait pas la VAR, comme vous l'avez très bien dit à l'époque. On y est allé parce que tout s'écroulait, quoi. En une seconde, tout s'est écroulé. On a eu cette réaction, mais que l'on savait inefficace à terme, quoi.
Mmh. Alors, expliquez-moi, au moment où Vata marque de la main, j'imagine qu'il est déjà dans la surface de réparation, vous confirmez ?
Ah oui, tout à fait, il est à l'entrée des 6 mètres.
Donc vous tentez une sortie pour aller intercepter le ballon, on en est là ? On est d'accord ?
Non, en fait non, parce que s'il ne met pas la main, le ballon passe devant tout le monde et sort de l'autre côté.
D'accord.
Quoi. Le fait qu'il change la direction du ballon, moi j'essaye de plonger pour essayer de sortir le ballon du but.
D'accord. Et là, qu'est-ce que vous voyez ? Vous le voyez toucher vraiment le ballon de la main, de la paume de la main, des doigts ? Qu'est-ce que vous voyez exactement ?
Ben moi, je vois la trajectoire du ballon qui à un moment donné, ne peut être touché par aucun joueur, mm-hmm. de façon licite. Mm-hmm. C'est-à-dire de la tête, des pieds, enfin. Sauf que là, il prend une direction différente qui ne peut être que le produit d'une action de la main, quoi. Donc,
oui, c'est
forcément,
clair.
C'est voilà, c'est ou l'avant-bras ou la main, mais c'est ni la tête, ni la poitrine, ni la jambe. C'est clairement au niveau du bras, de la main.
Et donc, c'est un but qui n'est pas valable, officiellement pas valable.
C'est un but qui n'est pas valable, on peut le dire.
Alors, vous avez vécu une autre injustice, hein, décidément, dans votre carrière. La Coupe du Monde 82, ouais. Alors, l'agression de Schumacher ouais. contre Battiston en demi-finale, vous étiez sur le banc cette fois. Qu'est-ce que vous avez oui. ressenti ? Parce que ça, c'est quand même, pour la mémoire française, c'est le grand drame shakespearien, ouais. vraiment.
Oui, ben, disons que, si vous voulez, sur l'action... On n'a pas pensé ni au gardien allemand, ni à la Coupe du Monde, ni à où on était, ce qu'on faisait. On a surtout pensé à la santé de Patrick. Mmh. Parce que quand on l'a vu percuter de cette façon, tomber à terre, et puis ce mouvement du bras, le poing fermé qui retombe doucement, on a pensé au pire, quoi. Voilà, nous, on a été surtout choqués par cette image de Patrick allongé sur le sol. Après, on s'est aperçu qu'il y avait une grosse agression de la part du gardien allemand. Voilà, quoi. Mais sur l'instant présent, enfin, au moment du choc, on a surtout pensé à l'intégrité physique de Patrick.
Oui, et puis alors même le drame sportif, et on s'en aperçoit après, évidemment, au moment où on ne pense pas à ça, mais c'est une défaite pleine de promesses, hein, puisque 2 ans après, l'équipe de France remporte son premier titre international en 1984.
Oui, je crois qu'on a, à cette époque-là, en 82, on a eu un début de compétition à Bilbao compliqué contre les Anglais, et puis je pense que Michel Hidalgo cherchait une équipe, cherchait une façon de jouer... qui correspondait aux qualités de son effectif, pas seulement des 11 joueurs, mais des 22, à l'époque on était 22, créer un style de jeu qui s'est avéré payant, puisqu'en fait on a joué avec 4 numéros 10, donc oui. ça c'était inédit dans le football, et je crois que c'est à partir de Bilbao qu'on peut dire qu'on a remonté la pente.
Oui, et vous savez, vous vous souvenez, on vous appelait les Brésiliens d'Europe. Ça voulait dire beaucoup, hein. Ça voulait dire un beau jeu, à la fois efficace et joli, quoi.
Et joli, et d'ailleurs, en 82, tout le monde espérait une finale Brésil-France, enfin France-Brésil, comme on veut, mais voilà, quoi, c'était la finale presque annoncée, quoi. Hein.
Mais les Italiens vous ont vengé, ils ont gagné devant l'Allemagne.
Quoi ouais. Oui, nous avons vengé, bon, on les avait bien entamés, les Allemands aussi, hein, quand
oui,
même,
c'est
on
vrai,
leur a facilité la chose.
Alors, à la fin du match, je reviens à ce match avec Vata, Tapie sous-entend que l'arbitre a été corrompu, beaucoup de joueurs ouais. sont persuadé d'avoir été volé. Qu'en pensez-vous, personnellement?
Moi, enfin, je... Corrompu, je sais pas, je... Voilà. Je pense surtout qu'il a fait une faute professionnelle, cet arbitre. C'est-à-dire que sur un corner, les arbitres, normalement, se mettent au premier poteau. Mmh. Hein, pour voir justement être face au jeu et disons, on va dire, comme avoir la vision que moi j'ai eue de cette action. Quoi, hein.
Oui.
Et lui, il ne s'est pas mis face au jeu, il s'est mis derrière tous les joueurs, à l'intérieur de la, du terrain. Et là, forcément, il ne pouvait pas voir ce qui se passait. Mmh. J'espère qu'il ne l'a pas vu. Voilà, il dit qu'il ne l'a pas vu. Moi, j'espère qu'il ne l'a pas vu.
Ah, mais il serait encore plus grave.
C'est surtout... Ce, ouais, c'est surtout sur son défaut de placement, quoi. Mmh. Je veux dire que tous les arbitres se mettent face au jeu, face à tous les joueurs et en dehors du terrain pour bien voir les actions. Parce que c'est vrai que là, sur un corner, il y a là, on devait être, je sais pas moi, une quinzaine de joueurs marseillais ou de Lisbonne qui étaient là en train de se bousculer, en train de voilà. Donc c'est sûr que s'il est derrière tout ça, il voit rien, quoi. Il vaut mieux qu'il se mette devant.
Mmh. Tapie explique aussi qu'il a compris à Lisbonne comment gagner des matchs, autrement dit comment recevoir les arbitres, notamment. Pour vous, est-ce que ça peut expliquer la suite et notamment l'affaire OMVA?
Alors je ne sais pas si ça peut expliquer parce que là, ça n'avait rien à voir avec l'histoire n'a rien à voir avec les arbitres. Mais il est vrai, il est certain que les arbitres, c'est préférable de les comment dire choyer un peu avant le match, de leur donner de la considération. Ça les met dans un état d'esprit qui est plus favorable, on va dire, sans chercher au-delà, quoi. Hein. Quand on voit par exemple ce qui se passe au rugby, quand on a vu c'était la quart de finale de l'équipe de France contre l'Australie, aucun joueur, aucun entraîneur ne s'est permis de critiquer l'arbitre, sachant que si un jour il se faisait réarbitrer par cet arbitre-là, il se serait fait défoncer, quoi. Mmh. Donc, aussi, au niveau du rugby, il y a quand même certaines précautions qu'on, vis-à-vis des arbitres qu'on prend, quoi.
Ouais.
Et ben, je pense qu'au niveau du foot, on le fait aussi. Et c'est vrai que, on accorde plus de crédit à un grand club comme Milan, comme tous ces grands clubs italiens ou anglais. Qui savent préparer les compétitions, qui en ont l'habitude, qu'un petit club, mais un club comme Marseille qui arrive là, qui a les yeux écarquillés, qui regarde tout ce qui se passe autour avec quoi, avec du plaisir, quoi. Voilà.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Jean Castaneda, l'OM est ouvertement volé avec cette main de Vata, mais tout de même au match aller, vous ne gagnez que 2-1. À l'époque, les buts à l'extérieur comptent double. Donc 2-1, malgré la victoire apparente, c'est pas un bon résultat. C'est pas une assurance vie pour le match retour.
Non, c'est sûr que c'est pas une assurance vie, d'autant plus qu'on avait fait un match extraordinaire. On doit marquer 3-4 buts de plus.
Eh oui.
Et c'est vrai que là, l'arbitre aurait pu être ce qu'il voulait. Faire des erreurs comme il voulait, on se serait qualifié. Hein. Je pense que l'accession à la finale, on la perd à Marseille.
Mais donc on est d'accord. Alors justement,
il n'y a pas de doute.
Revenons à ce match retour. Quelle est l'ambiance ce 18 avril lorsque vous entrez sur la pelouse du stade de la Lousse? C'est l'un des stades les plus chauds d'Europe, peut-être?
Je pense parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de limitation. Donc le stade contenait 120 000 personnes.
Ah oui.
119 999 Portugais, ouais, pour dire. C'est quand là, je me souviens, on a un accès au stade où on est sous la pelouse et on monte des escaliers et petit à petit, on découvre la tribune d'en face qui devait contenir 80 000 personnes à peu près.
Impressionnant.
Donc c'est un truc de fou, quoi. Et puis pendant tout le match, c'était vraiment une chape de plomb qu'on avait sur les épaules, quoi. Pour sauter, il fallait mettre beaucoup d'énergie. Hein.
Et alors, racontez-nous votre retour à Marseille, l'ambiance dans la ville. Comment ça s'est passé?
Ben, vous savez, quand j'ai eu un peu le sentiment que j'avais eu à Glasgow avec Saint-Étienne, c'est-à-dire que Saint-Étienne et les poteaux carrés, c'était une bonne excuse pour avoir perdu, quoi. Malheureusement, nous, les Français, on se raccroche un peu à ça. Là, c'est un peu pareil, quoi. Je veux dire, s'il n'y a pas la main de bataille, on gagne, quoi. Donc, si vous voulez, on se cache un peu derrière ça. Et puis, Et puis les gens étaient tristes, étaient en colère, mais pas contre nous, hein, contre ben, l'arbitre, contre Vata, contre les faits de jeu, quoi, en fait.
Alors on en arrive au débat actuel, la VAR, la fameuse, le fameux arbitrage par vidéo, en fait c'est un soutien à l'arbitre. Quel est votre regard, vous, sur cette méthode qui s'est imposée partout maintenant sur les terrains de foot?
Oui, c'est vrai, au départ j'étais pas trop favorable. J'étais pas trop favorable parce que bon, on s'aperçoit aussi que il y a quand même beaucoup de temps mort, que il y a pas de comment dire de liant dans les actions, quand on voit que l'arbitre de touche attend que l'action se finisse pour lever le drapeau pour savoir s'il y avait hors-jeu. Ouais. Et une fois qu'il a levé le drapeau, c'est pas suffisant, il faut qu'on vérifie à la VAR s'il y avait hors-jeu ou pas. Donc je trouve que ça fait mais on s'aperçoit quand même qu'il y a plus de positifs que de négatifs.
Mais bien sûr.
À mon sens.
Avec la VAR, il n'y avait pas la main de Vata, par exemple.
Le but n'aurait pas été validé. Voilà. Puis je trouve aussi que la VAR, elle n'insiste pas assez sur les tricheurs.
C'est-à-dire?
Parce que les tricheurs, les joueurs qui attrapent les autres joueurs par les maillots, sur les corners, on se pousse et tout. Là, je pense que la VAR a un rôle important parce qu'attraper un joueur par le maillot, c'est pas un geste footballistique. Alors que si celui qui fait ça, il prend 2-3 matchs de suspension, peut-être que l'autre fois, il ne fera pas, quoi. Et ça, je pense que ça aussi, ça peut faire du bien au football.
Comment avez-vous vécu la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions?
Je ne vais pas me faire que des amis, mais bon, je pense qu'actuellement, Paris, c'est au moins la meilleure équipe d'Europe, peut-être du monde, on le saura bientôt. Ils ont un beau jeu, ils ont des joueurs qui sont sympathiques. Ils ont gagné la Coupe d'Europe de façon éclatante. Ils ont fait des matchs avant aussi de façon éclatante. Et ça ne peut que faire du bien au football français parce que dans les difficultés nous trouvons avec les droits télé, toutes ces histoires, je pense qu'avoir un champion d'Europe français, ça va ramener un peu de sérénité, un peu d'argent dans le football français.
Et toute dernière chose, qu'est-ce qui manque à l'OM pour revenir sur le toit de l'Europe?
Marseille, je pense que cette année, ils ont fait le bon choix de garder leur entraîneur, déjà, de s'appuyer sur l'effectif qui était de qualité, et ne pas trop faire de changements, parce que on a vu Paris, hein, qui a tâtonné, qui a gardé son entraîneur deux ans pour qu'il mette en place quelque chose d'efficace, ça a été fait. Et je pense que Marseille, en adoptant cette méthode, peut y arriver et doit y arriver.
La méthode Enrique. Merci infiniment, Jean Castaneda, pour vos précisions, et vos témoignages et nos souvenirs partagés. Au revoir.
Merci beaucoup, merci à vous. Au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la main de Vata, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr, à la technique. Aujourd'hui, il y avait Loïs Moreau.